Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
On le sait, le couvre-feu qui est imposé par le gouvernement, le groupe pour lutter contre la COVID-19 a toutes sortes d'impacts sur toutes sortes de communautés différentes à l'intérieur de la société québécoise. Quand on y pense deux secondes, quand quelqu'un est travailleur ou travailleuse du sexe, ben évidemment, ça les affecte particulièrement. On va parler de tout ça avec Sandra Wesley, qui est directrice générale de l'organisme Stella. Bonjour, Madame Wesley.
Bonjour.
Comment ça se passe dans le milieu des travailleuses du sexe depuis l'imposition du couvre-feu? Est-ce que vos collègues sont l'objet de surveillance accrue des policiers? Est-ce que ça a un impact sur leur travail? Comment ça se passe sur le terrain?
Oui, absolument. L'impact, il est vraiment énorme. Je pense que la pandémie en soi et toutes les mesures ont beaucoup d'impact, évidemment, sur les travailleuses du sexe, mais le couvre-feu en particulier, c'est une mesure qui vient rendre la vie très, très, très difficile pour beaucoup de femmes. Ça force les personnes à faire des choix de soit arrêter de travailler, mais sans avoir accès aux aides gouvernementales, ou de quand même travailler la nuit et de s'exposer à la surveillance policière et à tous les risques qui viennent avec ça. On voit vraiment là, une grosse augmentation dans notre communauté de la pauvreté. Les personnes souvent ont perdu vraiment beaucoup de leurs revenus, puis aussi que les femmes doivent maintenant prendre toutes sortes de risques qui peuvent augmenter le risque de violence ou l'isolation dans leur travail pour se protéger pendant la période de couvre-feu.
Est-ce que parmi les témoignages que vous avez recueillis, il y en a quelques-unes ou plusieurs qui ont justement eu des contraventions parce que la police les avait verbalisées parce qu'elles travaillaient ou elles étaient dans la rue passé 22 heures, ou est-ce qu'on n'est pas encore rendu avec des contraventions de ce type-là?
Donc, pour l'instant, avec le nouveau couvre-feu, on n'a pas encore récolté nécessairement des données là, spécifiques sur les contraventions reçues. Souvent, ça prend un petit délai là, pour avoir cette information-là. Mais on a vu l'année dernière que beaucoup de contraventions ont été données. Et ce qu'on observe toujours dans notre communauté, c'est que souvent, les policiers vont interagir avec nous, vont nous harceler, vont même nous menacer puis être très, très agressifs avec nous, mais ne vont pas nécessairement terminer l'interaction avec une preuve comme une arrestation ou une contravention, parce que souvent, leur objectif est beaucoup plus d'un harcèlement constant des mêmes personnes. Donc, souvent, quelque chose comme un couvre-feu devient une justification pour rentrer dans nos maisons, pour rentrer dans nos milieux de travail, pour nous arrêter en voiture ou sur la rue pour prendre nos informations, ce qui en soi peut être très, très traumatisant et dangereux pour les femmes qui travaillent la nuit.
Oui. Je veux juste revenir là-dessus parce que c'est une affirmation quand même assez forte que vous faites. Vous dites donc qu'en temps normal, il y a beaucoup de policiers qui vous harcèlent, vous et vos collègues, mais que donc ces mesures-là sont comme une permission ou une banalisation du harcèlement, que les policiers vous harcèlent plus, c'est ce que je dois comprendre de ce que vous dites?
Oui, absolument, pour plusieurs raisons, entre autres parce que dès que les policiers ont des nouveaux pouvoirs et de la nouvelle énergie à mettre à surveiller la population, ils vont toujours aller vers les personnes qui sont déjà considérées comme indésirables et qui veulent déjà se débarrasser. Donc, c'est sûr que les travailleurs du sexe rentrent dans cette catégorie-là. Mais il y a aussi le fait que le couvre-feu donne vraiment des pouvoirs très, très réels aux policiers. Donc, il y a quand même des droits qui existent dans notre société. Déjà, en tant que travailleurs du sexe, parce qu'on commet un crime lorsqu'on exerce notre métier, ça nous enlève beaucoup de droits. Mais quand les policiers ont ce droit-là, maintenant, de n'importe quelle personne qui est dehors après 22 heures doit montrer ses pièces d'identité. Les policiers peuvent l'interpeller. On sait que ça fait des années qu'on travaille contre le profilage et qu'on essaye de faire comprendre aux policiers qu'ils ne peuvent pas simplement interrompre quelqu'un parce qu'elle a l'air d'une travailleuse du sexe. Avec le couvre-feu, eh bien maintenant, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Ils vont pas justifier à personne pourquoi ils ont approché une certaine personne, pourquoi ils sont allés quelque part. Donc, ça donne vraiment une impression de pouvoir quasi absolu aux policiers si on combine ensemble leur pouvoir au niveau des lois criminelles, au niveau des règlements municipaux et en plus maintenant au niveau des lois de santé publique. Donc, ça fait vraiment des policiers qui ont tout un inventaire d'outils et un policier qui veut harceler quelqu'un a aucune limite, en fait, là, maintenant, dans son comportement.
Mais j'essaie de comprendre, Mme Wesley, qu'est-ce que vous suggérez? C'est-à-dire que vous voudriez quoi? Donc, parce que la loi doit être la même pour tout le monde. Donc, personne, normalement, selon la loi, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la loi, mais le couvre-feu dit personne ne doit être en dehors de son domicile passé 22 heures. Donc, vous voudriez quoi? Que les policiers fassent une exception pour les travailleuses du sexe? J'essaie de comprendre ce que vous proposeriez, disons, comme solution. Hein? Parce que mettons-nous en mode solution.
Oui, ben pour nous, la première chose tout d'abord qu'il faut reconnaître, c'est que le couvre-feu, c'est pas une mesure qui est basée dans la science, c'est pas une mesure utile au niveau de la santé publique. Évidemment, nous, les travailleurs du sexe, on est dans une pandémie de VIH depuis très longtemps, on est des expertes aussi au niveau de la santé publique et c'est évident pour nous qu'il n'y a pas d'évidence pour supporter un couvre-feu pour qui que ce soit. L'autre chose, c'est lorsqu'on met une mesure, même s'il y avait un bénéfice au couvre-feu, il faut toujours évaluer les impacts réels d'une politique et voir est-ce que ça vaut la peine. Et un couvre-feu, je pense que ça tombe vraiment du côté de l'analyse que non, en fait, un bénéfice quelconque du couvre-feu, tous les torts que ça peut causer à plusieurs personnes de toutes sortes de communautés, ça ne peut pas justifier. Et ensuite, l'autre chose qui est un combat, je pense, constant, c'est vraiment de défaire les comportements policiers de discrimination, les comportements harcelants. Donc, on sait que ça fait partie du travail du SPVM. La Ville de Montréal l'a reconnu il y a déjà plusieurs années dans une commission sur le profilage. C'est quelque chose qui est constamment ramené. On sait que les policiers discriminent, que les policiers sont violents envers certaines personnes, surtout les femmes travailleuses du sexe. Et donc, il faut éventuellement adresser ce problème-là. Et ça veut dire commencer à donner des conséquences aux policiers qui ont des comportements problématiques, allouer des ressources peut-être différemment pour qu'on n'ait pas autant de policiers dont le travail à temps plein, c'est de nous surveiller en tant que travailleuses du sexe. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont beaucoup plus profondes et systémiques là, que des petites mesures qu'on pourrait modifier le couvre-feu pour le rendre plus intéressant. Là, malheureusement, nous, le couvre-feu, on voit que c'est une mesure qu'on peut pas sauver là, avec des modifications. C'est une mesure qu'on espère voir enlever là, le plus rapidement possible.
Donc, je comprends que, d'après ce que vous nous dites, qu'il y a cette frustration dans les rapports avec l'État policier et avec les services policiers. Vous nous disiez tout à l'heure que pour vous et vos collègues, que, évidemment, ce couvre-feu, de façon générale, mais aussi la pandémie encore plus, c'est une énorme perte de revenus pour vos clientes. Mm-hmm. En même temps, Madame Wesley, on peut pas s'empêcher de dire, bon, on est en période de pandémie, quelle façon ça se transmet ce truc-là, c'est aussi parce que faut maintenir une distance de 2 mètres. J'imagine que quand on a un rapport sexuel entre 2 individus, ben il y a pas de distanciation de 2 mètres. Donc on s'entend que pratiquer le métier de travailleuse du sexe en temps de pandémie, c'est pas l'idéal non plus. Donc de quelle façon les travailleuses du sexe se protègent et protègent les clients en période de coronavirus?
Oui, donc ça va varier évidemment selon la personne et les services exacts qu'elle offre. Évidemment, le port du masque et le masque de meilleure qualité possible fait souvent partie des pratiques en ce moment là, des travailleurs du sexe. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vont limiter le nombre de clients qu'elles vont voir ou les circonstances dans lesquelles elles vont voir des clients ou qui, si elles prennent des risques au niveau du travail, vont s'assurer dans leur vie personnelle, leur vie en dehors du travail, de vraiment s'isoler entièrement et de faire très, très attention, de tester régulièrement. Donc, les femmes trouvent des solutions. On est quand même des expertes du risque viral dans notre travail. Donc, même depuis le tout début de la pandémie, c'était plus facile peut-être que d'autres professions pour les travailleurs du sexe de trouver des solutions. Mais l'autre enjeu, c'est qu'évidemment, pour beaucoup de personnes, la solution, c'est de ne pas travailler dans un contexte actuel, mais justement parce que le travail du sexe, il est criminalisé, on voit le manque d'accès aux aides gouvernementales que d'autres travailleurs qui ont des professions à risque ont accès. Donc, c'est pour ça que les femmes se retrouvent dans des situations très, très difficiles. On doit choisir, mais soit je prends ces risques-là et je continue de travailler, ou qu'est-ce qui va m'arriver? En fait, je vais être à la rue, je vais perdre, j'aurai pas de revenus, j'aurai pas d'argent, j'aurai aucun remplacement de revenus non plus. Et puis, évidemment, si on regarde les options alternatives qui s'offrent à quelqu'un qui voudrait, par exemple, changer de travail, eh bien, souvent, c'est d'autres emplois qui sont tout aussi risqués, comme travailler dans des restaurants ou travailler dans le milieu de la santé. Souvent, les personnes doivent accepter là, un certain niveau de rythme. Il y a beaucoup de mesures très, très créatives là, au sein de l'industrie qui existent pour essayer de mitiger au maximum les risques.
D'accord. En même temps, c'est tout le temps qu'on a, mais en même temps, Mme Wesley, il y a une telle pénurie de main d'œuvre que je pense qu'il n'y a pas juste les restaurants au milieu de la santé où on peut travailler si on décide de quitter le travail du sexe, mais ce sera le sujet peut-être d'une autre conversation à un autre moment donné. Donc, je voulais vraiment aujourd'hui vous parler du couvre-feu, puis je pense que vous avez bien expliqué la problématique qui vous touche, vous et vos collègues travailleuses du sexe. Donc, je rappelle, Sandra Wesley, que vous êtes directrice générale de l'organisme Stella, qui regroupe et qui défend les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
Merci à vous.